Les trois paraboles que Adrien a résumées de Luc 15 nous disent tout simplement « Le Seigneur Dieu est amour ». Le Seigneur Dieu est amour. On accueille cette parole, on la reçoit. Le Seigneur Dieu est amour. Et moi. Et nous. Le Seigneur Dieu est amour. Et toi. Déjà dans l'Ancien Testament, les deux plus grands commandements y sont inscrits. Aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et j'ai demandé à ce que les textes bibliques soient affichés, et c'est ce que Jean-Marc va faire, je pense, et que Michel et Adrienne vont nous lire. Donc vous pouvez suivre le texte affiché et en même temps écouter les lectrices. Merci.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession. Afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements, ceux que j'institue pour toi, afin que tes jours se prolongent. Tu écouteras donc Israël et tu veilleras à mettre en pratique, afin que tu sois heureux, que vous vous multipliez et deveniez très nombreux, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans ce pays reluisant de lait et de miel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes.
Le Seigneur vient de libérer son peuple de la servitude de l'Égypte. Et pour ne pas qu'il retombe dans l'esclavage, le Seigneur lui dit comment il doit se conduire, comment il doit vivre dans l'obéissance aux 10 commandements. Dans l'obéissance à ces 10 paroles d'instruction. Et c'est dans cette obéissance-là que le peuple continuera à vivre libéré de son esclavage. Et le tout se résume, nous l'avons lu et entendu, « Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Se résume et se concrétise où, quand, comment, dans ta maison, quand tu voyages, quand tu te couches, quand tu te lèves, avec tes enfants, dans tout ce qui fait ta vie. Vis-le en continuant d'aimer le Seigneur Dieu, c'est-à-dire d'obéir à sa volonté. Et à défaut de l'avoir dans ton cœur, ce commandement, écris-le sur tes portes. Cela va t'aider certainement à t'en souvenir. Le chemin de la libération se trouve dans l'amour obéissant pour ton libérateur. Aimer le Seigneur Dieu. Et le second commandement se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Et je nous invite à lire et à écouter quelques versets de Lévitique chapitre 19. Merci Adrienne.
Comment Dieu veut être servi? Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu.
Merci. Voilà, aimer son prochain, c'est tout à fait concret, hein. Ne pas ressentir de la haine, ne pas se venger, pas d'amertume, ni de rancune, pas de calomnie, ni de moquerie envers celles et ceux qui auraient des handicaps, pas de mesquinerie dans vos affaires professionnelles, etc., etc. Et là encore, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, après tous ces actes concrets envers le prochain, le Seigneur dit à son peuple, « Je t'ai fait sortir de l'esclavage. » Agir ainsi envers son prochain devient une preuve de notre propre libération. Et ne pas agir comme le Seigneur libérateur le demande, au fond, c'est montrer qu'on est encore soi-même dans une servitude et qu'on n'a pas encore été libéré de cette servitude-là par le libérateur. Ne pas aimer notre prochain comme le Seigneur nous le demande, c'est qu'il y a encore quelque chose de la servitude de l'Égypte qui nous colle à la peau ou qui est tapis encore dans notre cœur. Mes sœurs et mes frères, si notre obéissance au commandement du Seigneur devient preuve de notre propre libération, le Seigneur nous dit que notre amour pour le prochain en est aussi une preuve tout autant capitale et essentielle. De l'Ancien Testament, nous passons au Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui rassemble les deux commandements. Et nous allons lire quelques versets du chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu.
Le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second pourtant lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
« Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du chapitre 22, et vous pourriez le lire à la maison tout à l'heure ou dans la semaine. J'aimerais simplement proposer un survol de ce chapitre. Vous le savez comme moi, tous les partis religieux juifs de l'époque se liguent contre Jésus pour le piéger, alors qu'en général, ils sont en opposition entre eux. Hein. Mais quand il s'agit de piéger Jésus, alors ils se rassemblent et s'unissent. Et chaque parti aborde Jésus avec une question piège. Les pharisiens s'unissent avec les hérodiens pour lui poser cette question: est-il donc permis de payer le tribut ou l'impôt à César? La réponse de Jésus, vous la connaissez: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, honorez vos propriétaires, honorez les droits de vos propriétaires, les prérogatives, leurs possessions de chacun, ne les volez pas. Ne volez ni César et ne volez pas aussi le Seigneur Dieu. Quelque part, chacun dans leur domaine, ils sont vos propriétaires. Les Sadducéens racontent cette histoire. Une femme devient l'épouse de chacun de sept frères d'une même fratrie. Et voilà que chacun meurt à son tour, malheureusement. Lors de la résurrection finale, demande-t-il à Jésus, de quel frère sera-t-elle l'épouse? Alors Jésus leur répond: la vie dans le royaume n'est pas la copie conforme ni la continuité de notre vie terrestre. Autrement dit, dit-il aux Sadducéens, vos dimensions de vie ne sont pas celles du royaume. Vos règles de vie, ou plutôt vos projections de vie dans le royaume, ne sont pas celles que vous vivez ici-bas. Et à nouveau, troisième question piège, les pharisiens arrivent vers Jésus, ils lui disent: mais quel est le plus grand commandement? Et sachant qu'il y en a 613 dans la Torah, ils se disent qu'il va vraiment se tromper quelque part. Alors, ils pourront l'accuser de blasphème. Et c'est ici, à ce moment-là, que Jésus rappelle les deux commandements de l'Ancien Testament: aimer le Seigneur, c'est-à-dire lui obéir, et aimer son prochain, c'est-à-dire agir envers lui comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. Je fais référence au sermon sur la montagne, vous l'avez compris. Ainsi, les 611 commandements ne sont que finalement des exemples concrets de situations, des développements pratiques de ces deux plus grands commandements. En fait, le grec dit que les 611 commandements viennent s'accrocher, se résume, c'est s'accrocher, viennent s'accrocher aux deux plus grands commandements. L'amour pour le Seigneur prend la dimension du droit du propriétaire libérateur sur nous. Nous rendons à Dieu ce qui lui appartient. Alors je dis autrement, nous rendons à Dieu, puisque nous affirmons par notre foi chrétienne que nous lui appartenons. Et l'amour pour le prochain prend la dimension de vivre avec notre prochain selon les valeurs divines. servir notre prochain, c'est-à-dire dépasser notre égocentrisme. Au fond, mes sœurs et mes frères, au fond, Jésus dit à ses disciples, je pense de manière globale, Jésus dit à ses disciples que vivre ses deux plus grands amours n'est pas limité, n'est pas contraint par nos situations de vie, ici-bas. Quelles que soient nos situations de vie, masquées ou pas, confinées, déconfinées, et peut-être... Quelles que soient nos situations de vie, nous pouvons toujours laisser au Seigneur sa place de propriétaire dans nos vies et dépasser notre égocentrisme naturel. Au fond, Jésus nous dit que nous pouvons vivre, enfin, il dit à ses disciples et à nous, les lecteurs postérieurs, Jésus dit à ses disciples, nous dit aussi, que nous pouvons vivre tels des esclaves en étant démasqués ou déconfinés, si ce double amour n'est pas le moteur de nos actes. Et si j'inverse ma phrase, Jésus me dit, nous dit, que nous pouvons vivre comme des libérés, tout en étant encore masqués, ou tout en étant peut-être encore confinés, tant que nous vivons dans ce double amour qu'il nous demande. Ma liberté, ta liberté, notre liberté, se trouve dans mon abandon au Père Céleste. Et mon engagement à servir mon prochain devient la preuve que je suis réellement libéré. Le Seigneur Dieu est amour. Et moi ? Et nous ? Affirmer que le Seigneur Dieu est amour, on a été joyeusement et progressivement conduit dans cette affirmation par les cantiques et les prières de tout à l'heure. Affirmer que le Seigneur Dieu est amour, c'est affirmer son être même, son caractère, sa nature même. Quand on dit que Dieu est amour, ce n'est pas affirmer une partie, une caractéristique de notre Seigneur, c'est dire, c'est affirmer la caractéristique de notre Seigneur. Le Seigneur Dieu est amour. Et nous ? Est-ce aussi notre caractéristique que d'aimer le Seigneur et notre prochain ? Nous connaissons ces textes écrits par l'apôtre Jean. Et nous l'avons chanté, me semble-t-il, dans l'un ou l'autre des cantiques. Tous connaîtront, tous ceux qui vous voient vivre connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si l'un d'entre vous dit « Moi, j'aime Dieu », mais qu'il n'aime pas son frère ou sa sœur. Est-il dans la vérité? C'est un menteur, dit Jean au chapitre 4 de sa première épître. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, qu'il peut toucher, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, il nous a donné ce commandement. Si tu veux m'aimer, dit le Seigneur, aime ton frère ou ta sœur. J'apprécie cette phrase du réformateur Martin Luther que je nous laisse en conclusion. Il a écrite dans son traité de la liberté chrétienne, voyez, et il dit ceci, c'est une traduction, il a écrit en allemand, il dit ceci, « Le chrétien ne vit pas en lui-même, il vit en Christ et il vit en son prochain. Hors de là, il n'est plus chrétien. » Et il précise, « Il vit en Christ par la foi et il vit en son prochain par l'amour. » Je trouve admirable la manière dont il a synthétisé ce double commandement. Le chrétien vit en Christ par la foi et il vit en son prochain par l'amour. Or, de ces deux « en », il n'est plus chrétien. Mes sœurs et mes frères, chacune et chacun d'entre nous, notre libération se trouve dans notre abandon au Père Céleste. Je me rends à lui. Il est mon propriétaire. Je me rends à lui. Et notre libération se trouve dans notre engagement à servir notre prochain. Et alors, cela devient la preuve de notre propre libération. Et ce qui nous rend possible de vivre ce double commandement, ce qui nous rend possible cette réalité de vie qui nous est demandée, eh bien, c'est la victoire du Christ. C'est la victoire du Christ. Il a rendu possible le fait que nous nous abandonnions avec confiance à lui. Et le Christ rend possible aussi notre service joyeux envers notre prochain, et j'ose même dire l'abandon joyeux de notre égocentrisme. Le Christ est là pour nous faire vivre ces deux commandements, le Christ ou l'Esprit Saint. Dans mon esprit, c'est équivalent. Je nous invite à la prière. Et après la prière, nous chanterons ce cantique « Tu nous appelles à t'aimer ».